André Gilles, Charenton. Puissais-je, en appelant l'attention publique sur un fait personnel de peu d'importance, faire pénétrer l'examen, l'enquête, le contrôle en ces établissements qu'on découvre hors hypocritement du nom d'asile? J'ai déjà dit en plusieurs endroits que j'aimais la Belgique et que j'y allais fréquemment. J'aime ce pays de lumière blanche, de claire verdure, où le peuple est mûr, sans ambition, sans guerre, sans enthousiasme, sans talent, sans esprit et sans caractère. Mais je m'y sens vivre et penser plus clairement qu'autre part. Puis tout autour sont les Flandres, pays de religion artistique, où la mémoire des maîtres se mêle aux reliques bariolées et pittoresque des guerres espagnoles. Donc, vers le mois d'octobre 1881, j'étais à Bruxelles et, selon mon habitude, j'étais allé saluer à Anvers le fauteuil de Rubens enseveli dans sa cage de verre. Le puits de Quentin Matisse qui déroule en l'air ses volutes forgées sur la place de la cathédrale. J'avais payé 50 centimes le droit de faire découvrir la descente de croix de Rubens, et vers 4 heures de l'après-midi, je repris la route de Bruxelles. Une voiture me conduisit jusqu'à Malines. Là, le cocher manifesta le désir de ne pas aller plus loin. Je le quittai, je cherchais à le remplacer, je n'y pus parvenir. Malines est un bourg mort. Je pris donc le parti de franchir à pied la distance qui me restait à parcourir et je me mis en route. Cette distance est de 3 lieues à peine. Il me fallut toute la nuit et le jour du lendemain pour en avoir raison. Il faut dire que vers 5 heures, le ciel s'était couvert de nuages noirs et qu'un vent terrible s'était mis à souffler, déracinant les arbres, ébranlant les toits, fauchant les herbes. Assez mal renseigné sur la route à suivre, je me mis donc à errer par la plaine, butant au monticule, roulant au fossé, chutant au ruisseau. Au bout d'une demi-heure, j'étais en guenilles et couvert de boue. Le vent me jeta tout à coup sur un arbre dont le choc m'étourdit et me fit ricocher dans une mare. En me relevant, j'aperçus 2 yeux flamboyants fixés sur moi. C'était un loup. Oh, je crois l'avoir tué d'un coup de canne. À l'aube blanchissante, quelques chaumières m'apparurent encore endormies, la plupart dévastées par l'ouragan. J'y frappai. Les paysans, stupides, me regardèrent avec terreur, donnant tous les signes de la plus vive agitation, et refusèrent de m'ouvrir. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris qu'ils me prenaient pour un fou. Je continuai donc et j'atteignis enfin les portes de Bruxelles. J'y vis un fiacre, je voulus monter. Le cocher, sans explication, me rejeta sur le pavé. Je lui déchargeai ma canne sur les épaules et j'en ailai un autre. Il pouvait être 8 heures du soir. Celui-là me conduisit à l'hôtel de Termonde, mais aussitôt arrivé, il exigea le prix de sa course, refusa de venir le chercher à 2 pas de là, chez un ami, et me fit conduire au poste, où d'ignobles employés, qui je l'espère ont été depuis jetés à la porte, me firent passer la nuit au violon. Le lendemain, sans que j'y comprisse rien, 2 hommes, qui étaient alors mes camarades, Gilles Naza et Stoïcar, vinrent me chercher en voiture et me conduisirent à Ever, dans un asile d'aliénés. C'est ma première étape. Le premier moment de stupéfaction passé, je repris mes sens, j'examinai l'entourage assez propre. Un vieux, qui se disait roi de tous les pays, m'offrit le trône de Belgique dont il ne se souciait plus, puis me quitta pour aller souffleter lentement et méthodiquement un idiot qui chantait en buvant. Je restais là 24 heures, assez maltraité. J'ai subi la cellule et la camisole de force. Puis Vallès va me chercher un matin avec une voiture. Le soir, à 8 heures, j'étais à Paris et je couchais chez moi. Comment se fait-il qu'après avoir repris mon train habituel, déjeuner chez Brébant, dîner chez Marguerite, je fus accosté dans la rue par des individus qui me menèrent à la préfecture. Là encore, je fus enfermé pendant une heure en cellule, puis je vis M. Massé, qui me causa familièrement et me parut un homme intelligent et agréable. Vers minuit, autre fiacre. Cette fois, on me dépose à Ville-et-Var, un asile de gâteux. Vers 24 heures, de Ville-et-Var à Sainte-Anne, encore 24 heures, et enfin, en m'annonçant la liberté, dernière voiture qui me conduit à Charenton, qu'on appelle Saint-Maurice par euphémisme sans doute. Cette bâtisse, divisée en 5 ou 6 ailes et surmontée d'une chapelle à fronton, regarde l'espace du haut des collines. Elle a des prétentions, monuments et se carre, muette et farouche, en scène d'un fossé. Des corbeaux y voltigent sur les toits plats à l'italienne. Ils attendent les cadavres. De là-haut, la vue est vaste et magnifique. C'est la vallée où viennent confluer la Seine et la Marne. L'été, c'est un poudroiement d'or, un fourmillement de verdure admirable en toute cette étendue. Mais l'hiver, oh, c'est une solitude nue, froide et mélancolique. J'arrivais en automne, j'eus des aurores pourprées, lilas et des couchants d'or, tout mon sou. Mais les gris se croisent partout, et l'on voit la nature comme un poisson à travers les mailles d'un filet. L'établissement de Charenton se compose de 18 divisions, 10 pour les femmes, 8 pour les hommes. Toutes sont établies sur le même modèle, une rangée de cellules enveloppant une cour entourée d'arcades. Pour mon début, on me séquestrait à la 8e, la division des agités, des fous dangereux. Je ne pouvais être pas mieux servi. Je m'attendais donc à vivre dans une tempête de cris, de coups, de vociférations, de bonds désordonnés et d'extravagances. Et quelle ne fut pas ma surprise en me trouvant dans un groupe de 16 à 18 personnes parfaitement recueillie, reposée et bien portante. À peine 2 fous. L'un s'appelait S. C'était un boucher de province. Telles étaient sa maigreur, son étisie, sa faiblesse, qu'à peine se pouvait-il tenir sur les jambes. 2 garçons l'étayaient de chaque côté pour l'aider à marcher et pour le faire manger. Entre chaque bouchée, le misérable était pris de hoquets et d'horribles vomissements de sang. L'infortuné n'avait aucune colère. Il se bornait à gémir d'une voix triste, lamentable, épuisée. « Mais pourquoi suis-je ici? Oh là là! Oh là là !» Un beau matin, vers 3 heures, il mourut, et l'on étendit son corps décharné sur la table d'amphithéâtre. Je ne vois plus que des êtres intelligents et paisibles. Sylvis, ancien diplomate, taillé en Hercule. Laudard, un joyeux soldat, capitaine d'infanterie. Cossonel, qui a peut-être un grain, car il se prétend investi d'un pouvoir occulte et forcé de rester pour accomplir sa mission jusqu'au bout. Richemont, le plus distingué des musiciens gentilshommes. La maison marche à la cloche. À chaque instant, on entend une sonnerie qui indique telle ou telle fonction de la journée. Tout le monde sort dans la cour quelque temps qu'il fasse, pendant qu'on prépare les tables. Un autre coup de cloche rappelle à table les pensionnaires. Deux repas par jour, le café au lait ou le chocolat le matin. On se lève à 5h30. La cloche éternelle se met en branle. Un vieux embouche un clairon et souffle un simulacre de Diane. Les portes s'ouvrent avec un grand fracas de clés. Chaque détenu ramassé harde, jeté dans le couloir la veille, et s'habille. Presque aussitôt, café au lait, à 8h30, la visite du médecin. Il s'avance, suivi de son état-major d'interne et de surveillant, passe rapidement devant chacun d'eux et ne s'arrête que pour signer une feuille où il a prescrit les différentes ordonnances. « Je ne comprends pas, me disait-il. Pourquoi l'on vous a arrêté à Bruxelles? Il y a un mystère là-dessous. » Comme il n'était pas plus stupéfiant de voir Paris séquestré de parti pris et indéfiniment un homme que la maison des Verts, du moins, avait relâché après examen, sa visite est éternellement pareille. « Comment allez-vous ? » ?»« Très bien, docteur. Vous ne dessinez pas ?»« Non, docteur. J'ai le malheur de ne savoir travailler avec fric en liberté. »« Vous avez tort. Vous prouveriez que vous pourriez reprendre vos avants une fois libéré. »« Non, non, je ne vous prouverai pas cela. D'ailleurs, cela conduirait à un système déplorable. »« Comment cela ?» Certainement. Il suffirait de mettre la camisole à tous les hommes de talent, puis de leur dire « Allez, maintenant faites-nous un chef-d'œuvre pour nous prouver que vous n'êtes pas fou. » « Oh, monsieur Gilles, vous avez trop d'esprit. » Ben, cela fait compensation pour ceux qui n'en ont pas assez. D'ailleurs, Victor Hugo a trop de génie. César avait trop de gloire. Jésus, trop de bonté. Tous ceux qui ont quelque chose l'ont trop pour ceux qui ne l'ont pas du tout. C'est pour cela qu'on les enferme, ce qui n'empêche pas les esprits généreux de rechercher les mêmes qualités, quitte à en mourir aussi. Allons, donnez-lui un bain. Voilà ce qu'on a pour faire diversion à la vie, qui s'écoule lentement, bêtement, sans incident ni distraction. La plupart entrent intelligents et petit à petit s'atrophient et deviennent stupides. J'ai frémi en entendant un vieillard accuser 54 ans de présence dans ce bouge. Que de forces perdues, que de cerveaux annihilés. Mais quoi, nul ne s'en occupe. Sans doute, la maison est considérée comme infaillible et la moindre question relative à ses œuvres serait considérée comme déplacée. Messieurs nos gouvernants ont probablement d'autres chiens à fouetter. C'est dommage. Il y aurait cependant là de quoi jeter un grand cri de justice, d'humanité. Une belle page à écrire dans l'histoire parlementaire. Un grand nombre d'âmes et de cerveaux à tirer du gouffre immonde où les laisse pourrir l'indifférence de la société ventrue.